Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le docteur Benjamin Rossi, infectiologue au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois.
Bonjour docteur Benjamin Rossi.
Bonjour.
Les syndicats de médecins scolaires appellent à fermer les écoles pendant 4 semaines. Certes, les vacances ont commencé, mais ils estiment que 2 semaines, ce n'est pas suffisant pour freiner l'épidémie. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ?
Alors, ça dépend. Pourquoi ? C'est-à-dire que on a une situation virale actuellement avec une circulation du coronavirus depuis quasiment le mois de septembre ou sur un plateau haut qui montait très haut au mois de novembre et qui est un peu redescendu. Donc on est sur une circulation virale permanente. De savoir si il est important pour cela de fermer les écoles. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Beaucoup de gens donnent leur avis depuis le début de cette crise sur les restrictions qu'il faut donner ou pas donner. Je crois qu'il faut être pragmatique sur la situation sanitaire que l'on voit. Pour le moment, elle est en plateau, donc je ne crois pas qu'il faille. Il va avoir les vacances et je pense qu'on a 2 semaines pour pouvoir voir comment les choses évoluent. Il faut arrêter d'être alarmiste.
Quand vous dites qu'il faut être pragmatique, ça veut dire qu'il faut voir quasiment au jour le jour.
Oui, c'est ça. Enfin,
on ne peut pas prendre de décision en vérité. On ne peut pas se projeter.
On peut se projeter. Je pense que à un moment cette crise va être derrière nous. L'humanité a traversé tellement de crises depuis le début de son histoire. On va se projeter. On sera un jour après. Il faut voir comment on va sortir de cette crise et quand on va sortir de cette crise. Mais là, pour les mesures de restriction qui nous incombent les semaines prochaines, il faut être pragmatique. Il y a les vacances qui arrivent, les écoles vont être de toute façon fermées. On verra bien ce qui va se passer.
Vous parlez de ce long plateau, du nombre de cas qui ne bouge pas beaucoup depuis plusieurs jours. Comment est-ce qu'on l'explique ça ?
On l'explique parce qu'il y a quand même des mesures de restriction qui sont mises en place en France depuis maintenant plusieurs mois. J'ai entendu beaucoup de gens parler par rapport à la diffusion des variants, notamment le variant anglais, est-ce qu'il va avoir une explosion épidémique. Mais enfin, moi, ce que je dis depuis le début, quand on me pose cette question, donc depuis le mois de fin décembre, début janvier, le variant anglais est associé à plus de contamination chez des gens qui sont sans masque et qui vivent sans période de restriction. Mmh. Est-ce qu'on a plus de contamination quand on a des mesures de restriction ? Déjà, on le sait. On n'a pas les études, on le sait pas, et probablement c'est moins le cas.
Notre couvre-feu, les fermetures des bars, des restos, des lieux culturels, des grands centres commerciaux.
Tout ça, une efficacité.
Finalement, ça fonctionne.
Ça fonctionne. Ça dépend toujours de ce qu'on cherche. On est sur un plateau, ça veut dire que quand même les gens s'infectent. Il y a quand même des gens qui meurent tous les jours. On n'est pas sur une situation où le virus ne circule pas. Mais pour le moment, ça met en tension les hôpitaux, mais on n'est pas débordé.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les Anglais, eux, se sont fait déborder.
Les Anglais se sont fait déborder puisqu'ils n'avaient à ce moment-là, pas les mêmes mesures de restriction.
Mais vous, docteur, du coup, vous n'êtes pas pour le reconfinement ?
Je pense que, en fait, c'est un objectif de société, c'est-à-dire que la décision de reconfinement, c'est une décision politique. Est-ce qu'on veut, par exemple, stopper complètement la circulation du virus pour éviter qu'il y ait des morts ? Il y a quand même 200 morts tous les jours, 300 morts tous les jours actuellement. Après, essayer de s'armer ? Ou est-ce qu'on préfère associer une situation sanitaire et une situation économique, trouver un équilibre entre le fait de ne pas être débordé et d'avoir une surmortalité liée au fait que les hôpitaux ne puissent plus accueillir les patients et une situation économique. Cette situation, cette décision, elle est politique.
On va revenir, si vous le voulez bien, sur les variants, parce que des établissements scolaires ont quand même été touchés, cette fois, par les variants sud-africains et brésiliens. Alors, ça a l'air minime pour l'instant, mais qu'est-ce que l'on sait déjà de ces mutants ? Est-ce que là aussi, il faut être en alerte ?
Alors, le variant sud-africain, on n'est pas minime, quand même. Moi, sur notre établissement, on a à peu près à 5% d'infections qui sont avec le variant sud-africain.
Dans votre hôpital ?
Oui, oui.
5%
à peu près, oui, peut-être entre 3 et 5%, ouais. Et pour le variant donc brésilien, on n'en a pas eu, mais effectivement, ces deux variants-là ont la caractéristique, donc c'est-à-dire qu'ils ont la même mutation que le variant anglais, celle qui est censée conférer donc une plus grande contagiosité, et ils ont une deuxième mutation qui est la E484K, qui est une mutation qui pourrait conférer un échappement aux anticorps et au système immunitaire. Donc, ils pourraient être plus source d'infection.
Et qui échappent donc aux vaccins, enfin, en tout cas, pour lesquels les vaccins sont moins efficaces.
Alors, échapper aux vaccins, non. Les vaccins sont moins efficaces sur les formes symptomatiques. Après, pour le moment, sur les formes graves, on a l'impression que les vaccins gardent une efficacité. Ça diminue quand même le taux de formes graves et le taux d'infection, les vaccins sur ces formes-là. C'est juste que le taux de couverture n'est pas aussi bon.
Il y a d'autres variants, pardon, à part l'anglais, le sud-africain, le brésilien, qui circulent?
En fait, je pense que ces mutations-là, qui sont en train, on a même vu maintenant la mutation E484K sur le DDD souche anglaise.
Donc, vous dites qu'en gros, le variant en anglais fait, mute encore, est en train de muter.
C'est des mutations qui vont arriver. Dès qu'elles arrivent, elles sont sélectionnées puisqu'elles donnent un avantage au virus. C'est-à-dire que l'objectif d'un virus, c'est de se répliquer. Pour se répliquer, il a besoin de rencontrer ses cellules cibles. Donc s'il a une mutation qui lui confère une facilité pour rencontrer sa cellule cible et donc se répliquer, cette mutation va être sélectionnée. Une mutation va lui permettre d'échapper au système immunitaire. Donc si ça lui permet d'arriver jusqu'à ses cellules cibles sans se faire tuer par des anticorps, cette mutation va être sélectionnée. Après, toute la question, c'est que ces mutations-là vont diffuser, c'est de savoir est-ce qu'elles vont être associées à des formes graves. Ce qu'on espère tous, c'est qu'une fois qu'on est vacciné ou une fois qu'on a fait l'infection, ces nouvelles infections ne sont pas aussi graves. C'est ça qu'on souhaite. On attend d'avoir du recul sur ces données-là. En science et en journalisme, on n'a pas vraiment le même temps. Nous, c'est sur un temps long, donc on attend d'avoir des preuves solides. Vous voulez des réponses immédiates, mais pour les avoir, il faudrait qu'on ait déjà des études qui reviennent.
Alors, réponse immédiate. Le variant anglais, c'est lui qui va l'emporter, il va être majoritaire?
Disons qu'en tout cas, cette mutation-là, la mutation qui confère une plus grosse infectiosité, c'est sûr qu'elle va être majoritaire à un moment, oui.
J'entends dire que c'est autour du 1er mars, j'ai lu ça dans les journaux.
Oui, ça c'est toujours un petit peu des prémonitions, mais probablement que oui, on ne doit pas être loin de cette date-là, ouais.
Il y a des clusters dans les hôpitaux?
Alors, des clusters dans les hôpitaux, on en a eu beaucoup depuis le début de cette crise, depuis le mois de mars, puisqu'on est forcément très exposé, donc il y a du personnel, il y a des gens malades, et donc oui, il y a eu des clusters. L'objectif des mesures qu'on essaye de mettre en application dans les hôpitaux, c'est d'éviter ces clusters-là, mais c'est compliqué, puisqu'on a pas beaucoup de moyens, on aimerait bien avoir que des chambres seules pour éviter ça, mais on ne peut pas puisqu'on manque de place et puis en plus on veut nous fermer des lits. Moi, si je devais vraiment revenir sur la problématique principale que l'on a, nous hospitaliers, dans cette crise, c'est que ça fait un an que ça dure parce qu'on manque de place à l'hôpital, mais que des renforts à l'hôpital, on réussit pas à en embaucher parce que les gens sont pas suffisamment payés, qu'on n'a pas suffisamment de place et que ça n'a pas changé depuis un an.
Je vous trouve quand même, par rapport au virus, assez serein. Vous n'emploierez pas des termes comme du sang et des larmes, le calme avant la tempête?
Je crois que les gens sont fatigués d'être stimulés, inquiétés en permanence. Disons que c'est une situation sanitaire inédite. On va la traverser tous ensemble, je pense. On va arriver au bout de cette crise. La question, c'est de savoir comment, et je pense que c'est plus par plus de solidarité. Si on est toujours en train de passer notre temps à diffuser notre colère dans les médias, je pense que on crée juste une forme d'instabilité permanente, d'une fatigue permanente, une fatigue psychique. Je crois qu'on a besoin de solidarité, de se retrouver tous ensemble pour battre contre un ennemi commun, qui est cette infection. Du sang et des larmes, je pense qu'on en a tous eu depuis un an. On a vu beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens décédés à l'hôpital. On a eu beaucoup de moments difficiles. Donc c'est pas besoin de haranguer ces paroles-là.
Vous leur en voulez beaucoup d'utiliser ces termes-là très
alarmistes? Non, j'en veux à personne. Moi, je veux juste qu'on puisse faire notre travail dans de bonnes conditions.
Encore sur l'hôpital, est-ce que les méthodes que vous employez en 2020 sont encore valables en ce début de 2021?
Alors, sur notre service, on a utilisé des moyens de traitement assez rapidement parce qu'on a été très vite débordé et qu'on a utilisé assez rapidement les corticoïdes et un autre traitement qui est un anti-IL-6 qu'on continue à utiliser dans les formes graves qui semble être efficace. Donc après il y a des choses qui ont changé, il y a des médicaments qu'on n'utilise plus puisqu'on a montré que ça ne fonctionnait pas, il y a des méthodes de ventilation qui se sont améliorées. Donc c'est en mutation perpétuelle, on s'améliore, on affine.
La docteur, vous déprogrammez certaines opérations, certaines interventions?
Alors il y a des interventions actuellement, alors moi je m'occupe pas du bloc opératoire, mais je sais que pour le moment on ne déprogramme pas, mais il y a la question qui se pose en cellule de crise en fonction de si on devait monter en charge, parce que là la réanimation commence à être un petit peu saturée.
Docteur Benjamin Rossi, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a eu raison de se faire vacciner devant les caméras?
Je pense que c'est didactique. Après, je crois qu'il y a une période où tout le monde, personne ne voulait se faire vacciner. Maintenant, les gens, je pense, ont fait leur bonhomme de chemin et ont plus envie de se faire vacciner. Je crois que c'est bien de continuer dans cette démarche-là. La vaccination fait partie des traitements qui ont permis d'augmenter l'espérance de vie des êtres humains. Donc, je pense qu'être juste contre la vaccination par principe, c'est dommage. Et je crois que c'est bien que nos politiques montrent l'exemple.
Mais pourquoi les soignants sont-ils aussi réticents à se faire vacciner ? Et plus les soignants sont au contact des patients, moins ils veulent se faire vacciner. Dans l'échelle, par exemple, on entend dire que les aides-soignantes sont plus réticentes que les infirmières, que les médecins.
Oh, je sais pas, c'est des mesures qui leur ont été imposées. Vous savez, à l'hôpital, il y a pas mal de choses. On dit, vous êtes obligé de vous vacciner contre la grippe, obligé de faire ça. Je crois que personne n'aime se faire forcer et donc du coup à partir de ça il y a des raisonnements qui sont créés qui sont pas toujours les bons. Après tout, je crois qu'avec de la communication et en discussion avec les équipes, les gens sont moins en moins réticents pour se faire vacciner. Hein.
Et vous alors ? Je sais que vous êtes jeune, mais vous.
On a discuté de ça. Moi, je suis en dessous, j'ai moins de 50 ans. J'ai déjà fait l'infection par la Covid, donc je pense pas que je vais être prioritaire. Mais dès qu'on pourra se faire vacciner largement, je le ferai.
Dernière question. J'ai entendu dire que des soignants ont été infectés entre les deux doses Pfizer. Est-ce que vous avez entendu cela, notamment à l'hôpital Tenon de Paris?
On sait très bien que la couverture, elle est donc la couverture maximale du vaccin, c'est une semaine après la deuxième injection. Donc, effectivement, après la première dose, on n'est pas complètement couvert, donc c'est pas étonnant. Il y aura des cas. J'ai entendu parler de cas un peu partout, pas qu'à Tenon.
Rien d'alarmant. Merci beaucoup, docteur Benjamin Rossi. Je rappelle, infectiologue au Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger, d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
On va sortir de cette crise. L'humanité en a vu d'autres, vient de nous dire le docteur Rossi, avec ce plateau qui dure et les vacances de février, on a le temps de voir venir, en particulier pour nos écoles. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre un médecin pondéré. Je retiens aussi que vous nous avez dit qu'on avait besoin de solidarité pour affronter cette crise. Bonne journée à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur...